Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, il va nous aider à prendre un peu de hauteur, on en a besoin. Comment cette crise sanitaire peut nous amener à une vie plus simple et plus tranquille? Cet invité, c'est le sociologue Jean-Claude Kaufmann qui publie un essai remarquable intitulé « C'est fatigant la liberté ». 18h30, les polémiques du jour, on reviendra sur la grosse colère aujourd'hui à l'Assemblée nationale de Jean Castex. 19h15, la carte blanche de la philosophe Juliette Funès. Coup de griffe ce soir contre les médecins qui réclamaient un confinement national strict. Et puis 19h20, le Club des idées. Grand débat ce soir, explosif. L'hôpital français est-il malade de ses lourdeurs administratives? Retard à l'allumage sur les masques? Manque de lits? Revirement sur les autotests? Alors la bureaucratie est-elle la seule responsable des ratés de la gestion de la crise sanitaire? On en parlera avec nos invités comme à chaque fois. Voilà pour le programme. D'abord toute l'info avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Ceux qui cherchent à tirer des avantages politiques d'un drame national n'apporte finalement pas grand-chose à la résolution de leurs difficultés.
Jean Castex assure le SAV des mesures présentées hier soir par Emmanuel Macron. Face aux attaques en règle de l'opposition, le Premier ministre a dû hausser le ton.
Une opposition furieuse de ne pas avoir été consultée en amont et qui dénonce donc une mascarade, une humiliation, un piétinement du Parlement.
Le Premier ministre a par ailleurs précisé aujourd'hui que la consommation d'alcool sur la voie publique était désormais interdite. Les Français ne comprennent pas trop le message. On leur demande de se confiner dehors, mais pour boire, ils devront rentrer chez eux.
Au sommaire également après Strasbourg, l'association Miligorus serait sur le point de construire une mosquée à Mulhouse.
Et puis après Bob Dylan, Shakira ou encore Neil Young, c'est au tour de Paul Simon de vendre son catalogue à Sony Music. La Bourse de Paris a terminé en hausse ce soir, plus 0,59% à 6102 points.
La météo avec Anissa Dadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Ça y est, les nuages sont de retour.
Oui, je vous avais prévenu depuis le début de semaine que le temps allait changer. Alors attention, demain ça change doucement. Les nuages arrivent par le sud-ouest. Sur la moitié nord, en revanche, nous allons vivre une nette baisse des températures. À Paris, par exemple, demain après-midi, nous allons perdre 9 degrés. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Au lendemain de l'annonce du nouveau tour de vis sanitaire, c'est donc Jean Castex qui est venu devant le Parlement aujourd'hui préciser le détail des mesures évoquées hier soir par Emmanuel Macron.
Le Premier ministre a une nouvelle fois appelé les Français à la responsabilité. Et il a prévenu, pas de cadeau pour ceux qui ne respecteront pas ces règles.
Je veux devant vous condamner sans réserve l'irresponsabilité dont font montre certains, se croyant sans doute invincibles aux ravages de la maladie qui pourtant nous démontre chaque jour le contraire. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'accroître le nombre de policiers et de gendarmes affectés à cette tâche. Ces comportements, qu'il s'agisse de rassemblements festifs, du non-respect du couvre-feu ou du refus du port du masque, nous devons les prévenir et les sanctionner.
Il y a des règles, il faudra les respecter, dit donc le Premier ministre. Et parmi ces règles, il y en a une en particulier qui ne passe pas visiblement.
Oui, car outre l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes, la consommation d'alcool sera également interdite sur la voie publique. On ne pourra donc plus se poser dans un parc ou sur un banc avec deux ou trois amis, une bière à la main. Et c'est une mesure qui suscite beaucoup d'incompréhension. Se confiner dehors sans alcool laisse les Français pour le moins perplexes, comme vous avez pu le constater dans les rues de Paris, Jean-Jacques Herry.
Oui Isabelle, il suffit d'aller faire un tour près du canal Saint-Martin, le haut lieu des apéros parisiens pour s'en rendre compte. On y retrouve Edgar qui a déjà fini le sien. Quatre bouteilles de bière vides viennent en rejoindre quelques autres dans la poubelle.
Si ça peut réguler un peu, pourquoi pas? Si on peut trouver des solutions pour freiner le virus, je suis complètement d'accord. Après, au point d'en arrêter l'alcool, je pense qu'il faut juste aux gens d'avoir de la bonne, du bon sens. Quoi. Mais
le bon sens et la responsabilité. Clément regrette justement qu'on n'y fasse pas appel. Alors il savoure une de ses dernières bières dans un gobelet en plastique avec son ami Jérémy.
C'est raisonnable, je veux dire, on n'est pas en 10 en train de picoler. Donc
ça ne va pas empêcher les gens de se rassembler dehors. On peut consommer de l'eau, des boissons sucrées, ça ne changera pas grand-chose. Finalement, les gens continueront de se regrouper au soleil.
Puis il y a aussi l'impression qu'on vous enlève à nouveau un de ces petits plaisirs simples de la vie, un de plus. Et on sent déjà poindre une pointe d'indiscipline.
Je ferai attention, je zioterai l'arrivée de la police, mais je continuerai de consommer de l'alcool.
Une petite bière avec le temps qu'il fait en ce moment, nous on adore. Les gens ils mettront des mélanges dans leurs bouteilles et ils menteront et ils diront que c'est du sirop de menthe alors que ça sera du Jet 27.
Et quelques-uns m'ont également fait remarquer, parfois avec un petit sourire, que si l'alcool sera bientôt interdit dehors, il sera toujours autorisé en intérieur.
Effectivement, le reportage de Jean-Jacques Herry,
pas d'alcool. En même temps, un Jet 27 à 16h, c'est quand même un peu tôt. Hein.
Ouais. Pas d'alcool en tout cas en extérieur, c'est l'une des mesures annoncées. Donc, le Premier ministre a par ailleurs confirmé que les déplacements seraient fortement limités dans tout le pays.
10 km seulement effectivement autour de chez soi, mais une tolérance sera donc accordée pour le week-end de Pâques. Pour ceux qui veulent aller se mettre au vert, ce sera le cas également pendant toute la durée du confinement pour ceux qui doivent accompagner ou aller chercher leurs enfants, chez les grands-parents par exemple, ou chez un proche.
Et lors de la présentation de ces mesures, les esprits se sont échauffés, c'est le moins que l'on puisse dire, dans l'hémicycle, à tel point que Jean Castex est sorti de ses gonds.
Et j'ai entendu, chez beaucoup d'intervenants, l'idée que finalement, elle serait trop tardive, elle serait insuffisante. Mais quelle était la musique de ces interventions ? Les commerces ne les fermaient pas ? Les stations de ski ne les fermaient pas ? Les universités, rouvrez-les ? Les établissements publics culturels, rouvrez-les ? J'ai entendu ça depuis des semaines. Et aujourd'hui, voilà que nous serions trop mous, trop tardifs. C'est formidable.
C'est vrai que c'est rare d'entendre le Premier ministre s'emporter de cette façon. Il faut dire que l'opposition ne l'a pas ménagé, hein, Claudia Bertram.
Oui, l'opposition, tout bord confondu, a tiré à boulet rouge sur l'exécutif. Dès les premières minutes de l'intervention du Premier ministre, des huées ont retenti à droite comme à gauche de l'hémicycle. Et tous les groupes d'opposition ont décidé de tout simplement boycotter le vote, dénonçant une mascarade, comme le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
C'est un mauvais poisson d'avril. Et le poisson d'avril, comme tous les poissons, pourrit par la tête. Nous refusons de voter. Nous ne sommes pas votre public voué à vous acclamer. Nous en avons assez de voir l'Assemblée exclue de la discussion sur la stratégie à mettre en œuvre contre la pandémie.
Parodie de démocratie dénonce aussi le patron des députés LR, Damien Abad, qui, à la tribune, étrille la gestion de la crise par l'exécutif.
La vérité, c'est que vous avez été débordé par cette épidémie. La vérité, c'est que le virus avance plus vite que la vaccination. Votre stratégie de vaccination, ce n'est plus un pari perdu, c'est une bérésina sanitaire.
La présidente du RN, Marine Le Pen, a quant à elle voté contre, estimant indigne que le gouvernement cherche à diluer sa responsabilité. Les nouvelles mesures de restriction ont toutefois été largement approuvées par l'Assemblée grâce à la majorité qui a fait bloc derrière le Premier ministre lors de ses passes d'armes dans l'hémicycle.
Merci Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Boycott massif également du Sénat cet après-midi. Le Sénat dominé par l'opposition de droite. Et puis on signale qu'on apprend à l'instant que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, est sortie de l'hôpital où elle avait été admise pour des complications liées justement au Covid.
Alors toutes ces mesures, selon l'exécutif, doivent en tout cas permettre de contenir la vague épidémique, sachant qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, prévient on pourrait avoir atteint le pic d'ici 7 à 10 jours.
Le gouvernement compte beaucoup par ailleurs sur la campagne de vaccination, vous le savez. Et à ce sujet, l'Organisation mondiale de la Santé se montre très sévère vis-à-vis de l'Europe.
Oui, l'OMS qui critique la lenteur inacceptable de la campagne de vaccination.
Alors qu'aujourd'hui, le secrétaire d'État français aux affaires européennes annonce que le vaccin russe Sputnik ne sera pas autorisé au sein de l'Union européenne avant la fin juin. Et puis en Suède, face au manque de doses, les autorités repoussent de 2 mois l'objectif qu'elles s'étaient initialement fixé, la vaccination de tous les adultes volontaires d'ici fin juin. L'échéance est donc repoussée à la fin août. L'Italie annonce elle avoir reçu plusieurs millions de doses en moins que ce qui était prévu, en particulier des doses d'AstraZeneca.
Europe 1, Julien Bugier.
18h07, vous restez avec nous dans quelques secondes la suite du journal. On verra que la controversée association Miligorus a un autre projet de lieu de culte à Mulhouse cette fois.
Et puis encore une icône de la musique qui décide de vendre son catalogue musical.
A tout de suite. Oui, la suite du journal et on découvre donc aujourd'hui que l'association Miligorus, au cœur d'une polémique, vous savez, à Strasbourg, on en a parlé, aurait un autre projet de lieu de culte, cette fois à Mulhouse.
Effectivement, on avait beaucoup parlé du financement du chantier de sa mosquée par la mairie de Strasbourg, alors que cette association est accusée de pratiquer un islam politique. Eh bien, manifestement, Roman Hockey, un projet similaire est donc lancé à Mulhouse.
Oui, l'association vient de déposer une demande auprès de la mairie, on l'apprend aujourd'hui. Il s'agit d'une salle de prière qui doit être aménagée dans un hangar d'environ 700 mètres carrés. La différence avec Strasbourg, c'est que cette fois, la mairie de Mulhouse est opposée à ce projet lancé en 2013. Elle a d'ailleurs tout fait pour l'empêcher. Un bras de fer juridique, raconte Paul Quint, l'adjoint en charge des cultes.
Nous avons déployé toute notre énergie et tous les recours possibles pour éviter l'installation de cette mosquée. Amil Gorush fait partie de ces associations qui a refusé de signer la charte. C'est pour nous une association qui n'est pas en accord avec les principes de la République, avec tout simplement la laïcité.
Alors après 8 ans de procédure, la mairie de Mulhouse n'a plus aucun levier pour interdire l'aménagement de cette salle de prière. Parce que juridiquement, administrativement, rien ne s'oppose à ce projet. L'association est dans les clous. Les élus misent donc sur une dernière carte, une intervention de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, comme c'était le cas pour Strasbourg.
Merci Romain Noquet. Danone revoit son plan de suppression d'emplois à la baisse. 1850 dans le monde au lieu de 2000 annoncés à l'automne. Ce sont principalement les cadres qui sont visés. Et en France, ça pourrait se traduire par le départ de 458 salariés. Très forte hausse des ventes de voitures neuves en mars, plus 191%. 182 000 véhicules, mais c'est une hausse évidemment en trompe-l'œil, puisque l'an dernier, à la même époque, eh bien, le confinement très strict avait poussé les clients à décaler leurs achats.
C'est un artiste que vous connaissez forcément. Je sais qu'il a bercé votre adolescence, ma chère Isabelle. Paul Simons annonce qu'il vend son catalogue à Sony Music.
Oui, il y a quelques temps, vous avez déjà parlé de Neil Young ou encore de Bob Dylan, qui avait fait la même démarche. Eux aussi ont cédé leur catalogue musical. Angèle Châtelier, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils ont besoin d'argent?
On peut dire ça, oui. Disons que vendre son catalogue, c'est un bon moyen d'avoir du cash rapidement. Ce que confiait Paul Crosby sur Twitter en décembre dernier. « J'ai une famille et une hypothèque et je dois m'en occuper. C'est donc ma seule option », écrivait-il. Un bon moyen de profiter de la vie aussi pour Paul Simon, Bob Dylan, Neil Young. Tous deviennent octogénaires et leurs chansons ont traversé les décennies. Ce tube de Simon & Garfunkel, par exemple, est sorti il y a presque 60 ans. Alors ces chansons valent de l'or. Bob Dylan aurait vendu son catalogue à Universal Music en fin d'année dernière pour 400 millions de dollars. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock. Alors c'est une somme pour les entreprises qui les rachètent, mais c'est aussi un investissement. À chaque fois que nous écoutons une chanson de Bob Dylan sur les plateformes de streaming, ça rapporte de l'argent aux nouveaux ayants droit. Pareil lorsque nous achetons des albums en CD, en vinyle, et enfin lorsqu'elles apparaissent dans des publicités, des films ou des séries télé. Ce que compte bien faire la société Ignosis, on l'imagine, qui a acheté récemment 145 chansons de Shakira.
Merci beaucoup Angèle Châtelier. Un mot encore, Julien.
Non, c'est vrai que ça va bien avec le Jet Dance avec Shakira, Dance, c'est voilà. Ce que vous oubliez.
Un mot encore pour vous dire que le Paris-Roubaix, la célèbre course cycliste, est une nouvelle fois reportée à l'automne. Elle devait se tenir le 11 avril, ce sera le 3 octobre.
Bien, merci Isabelle. À tout à l'heure, 18h30 pour le rappel des titres. En parlant de Shakira, on retrouve Anissa pour la météo. Ma chère Anissa, vous étiez en... Tout en folie, là,
ouais.
pendant le court extrait. Alors, ça y est, les nuages arrivent demain.
Oui, alors c'est une petite dégradation. C'est-à-dire que ce changement de temps que je vous ai annoncé et qui sera très flagrant la semaine prochaine, il va se faire tout doucement. D'abord, la petite dégradation demain va toucher surtout les reliefs, avec de nombreux nuages sur le Jura, les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, avec des petites averses en altitude et même des orages dans l'après-midi sur les Pyrénées. En fait, c'est dans le sud-ouest, demain, sur l'Aquitaine et l'Occitanie, que le ciel sera le plus nuageux. Dans le nord, nous avons une grisaille qui est en train de se mettre en place et qui arrive avec la bise qui souffle toujours, donc toujours du froid dans le nord. Dans le sud, sur le littoral du Var et des Alpes-Maritimes, nous aurons encore des entrées maritimes. Et partout ailleurs, je vous rassure quand même, le soleil va encore bien briller demain. Les températures,
oui.
Allez, ça y est, ça baisse. Elle varie de 4 à 14 degrés demain matin, 4 à Lille et Clermont-Ferrand, 7 à Paris et Marseille, 9 à Besançon, 11 à Bordeaux et 14 à Biarritz pour le matin. Dans l'après-midi, ça va baisser, surtout sur la moitié nord, avec seulement 11 degrés à Dunkerque, 12 à Lille, 14 à Caen, 16 à Rouen et 17 à Nice et Paris, sachant qu'aujourd'hui à Paris, on avait 26 degrés. Dans le sud, ça reste toujours très doux avec 22 degrés à Marseille, 24 à Toulouse, 25 à Lyon, 26 pour Bordeaux et 28 la maximale à Brive-la-Gaillarde. Donc même si ça baisse, nous restons toujours au-dessus des normales de saison.
Non mais surtout, c'est un truc de dingue. J'ai vu qu'il allait neiger la semaine prochaine.
Bien sûr, alors j'allais vous en parler mais j'attendais un peu. Bon. Effectivement, on aura de la neige mardi et mercredi dans beaucoup de grandes villes
dingue.
Comme Paris.
Dingue.
Et des températures négatives le matin. Donc là, on va vraiment se prendre un gros coup de foie polaire.
On en parlera tout à l'heure. Vous revenez à 18h30 pour un nouveau point sur le temps. Merci Anissa.
Europe 1, Julien Buchy.
18h15, restez avec nous dans quelques secondes. Le sociologue Jean-Claude Kaufmann nous livrera sa petite leçon de crise. C'est fatigant la liberté, dit-il. A tout de suite. Et ce soir, notre invité à 18h18, il est sociologue, directeur de recherche honoraire au CNRS. Bonsoir Jean-Claude Kaufmann.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Vous publiez « C'est fatigant, la liberté, une leçon de la crise ». C'est aux éditions de l'Observatoire, qui est une réflexion en quelque sorte sur l'abandon forcé, avec les confinements à répétition, de nos petites libertés du quotidien. Et vous dites en somme « Cette crise a provoqué en nous un ramollissement de l'existence assez confortable ». Est-ce que ça a été salutaire, selon vous, cet affaissement, ce ralentissement ?
Alors, pas toujours confortable. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu premier confinement, deuxième, là, on ne sait plus trop si c'est... On ne sait plus compter, parce que entre les demi-confinements, couvre-feu, etc., la durée change la donne, quoi. Il y a une fatigue de la durée de la crise et un désir de liberté pour ceux qui en sont privés. Donc, on est contradictoire par rapport à la liberté, parce que on ne peut pas, c'est un acquis extraordinaire. Et on est dans cette nouvelle société où on a de plus en plus de libertés. Et des libertés même dans la vie quotidienne. Autrefois, il y a 30 ans, on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette. Aujourd'hui, par rapport à l'alimentation, on va se poser 1000 questions sur tout. Et puis,
c'est d'ailleurs comme ça que vous commencez le livre. Oui, vous dites, j'en ai marre de choisir tout le temps. Donc quand je vais au restaurant, j'attends que les autres choisissent et je dis, je vais prendre comme vous.
Mais c'est un petit travers personnel. C'est juste 10 lignes au début, mais effectivement, j'ai ce petit travers. J'ai toujours peur du mauvais choix dans la carte, de regretter par la suite et se laisser couler, finalement, c'est une manière d'être, parce que du coup, je m'aligne sur le choix des autres convives, du temps où les restaurants étaient ouverts. Et du coup, je découvre des choses que je n'aurais peut-être pas choisies moi-même. Donc, c'est une manière d'être.
Vous savez d'ailleurs ce que disait Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il disait « Je m'habille toujours de la même manière. Comme ça, je n'ai pas besoin de choisir le matin. Et ça me laisse du cerveau disponible pour penser à ma société. »
Non, mais c'est très juste. C'est bien la question du cerveau disponible. Avoir du temps pour réfléchir à des choses importantes et ne pas avoir une pression mentale continuelle par rapport à une infinité de questions qu'on se pose sur tout.
Alors, vous écrivez ce qu'on a tous vécu. Qu'au sommet de la première vague, on nous a intimé l'ordre de nous mettre en retrait du monde, enfermés, dites-vous, dans nos petits chez-soi. Il n'y avait rien à décider, pas de justification à trouver. Il suffisait de se laisser glisser dans le lent, le vide, le mou. Et d'une certaine manière, ça a été plutôt agréable.
Alors, pas pour tout le monde.
Pas pour tout le monde,
il y a certains qui souffraient de très grande solitude. Il y a ceux, et là on va y revenir aujourd'hui, il y avait des fois le trop-plein avec le télétravail, les enfants à la maison... D'autres, une très grande solitude, donc le manque des liens, du soutien affectif, etc. Mais ça a été le paradoxe pour une majorité, donc les sondages sont très très clairs là-dessus, pour une majorité de personnes, ils ont eu du mal à l'avouer, c'était un peu honteux, c'était pas un grand plaisir. Mais finalement, c'était pas si désagréable que ça d'avoir un moment de pause. Et ils l'ont vécu comme un moment de pause, comme une respiration. Et au bout d'un moment, est-ce que ce n'était pas plus que ça ? Est-ce que ça ne poussait pas une réflexion sur le sens de la vie, d'une certaine manière ?
Oui, parce que c'est le sens de votre livre aussi, d'une certaine manière, Jean-Claude Kaufmann. C'est une ode à la lenteur, c'est l'aspiration de la société, la marche, la sieste, le slow, les exercices de respiration, qui sont très à la mode, parce qu'on en a besoin aussi, qui sont des moyens, dites-vous, d'échapper à l'accélération du monde. Et alors, vous faites un parallèle, parce qu'on voyage aussi dans le temps à travers cet ouvrage, entre cette drôle de vie et la drôle de guerre entre 39 et 40. Expliquez-nous ça.
Oui, j'ai essayé de réfléchir à l'événement que nous étions en train de vivre, parce que c'est un événement absolument majeur. Tout le monde en est conscient, mais vraiment majeur. Je pense que dans un siècle, on parlera de notre époque. On a vécu quelque chose de tout à fait étonnant. Et dans ce caractère étonnant, il y a le fait que la petite mécanique individuelle de produire le sens de sa vie, de produire, parce que le cœur de l'identité, c'est ça. Comme dit Ricoeur, l'identité est narrative, c'est-à-dire on se raconte l'histoire de sa vie à partir de tout ce qu'on est en train de vivre pour que ça fasse sens. On se raconte l'histoire qui va faire sens. Et d'habitude, on fait ça tranquillement, avec tous les petits événements qu'on a eus dans l'existence. Et là, l'événement nous est arrivé dessus. Et on a été arrachés à ce travail-là. Et on a été propulsés dans une communauté.
Oui.
Une communauté de destin face au risque de la mort. Et donc, on était dans une espèce d'entre-deux, comme dans la drôle de guerre. C'était pas la guerre, mais en même temps, c'était pas la vie normale. Et là, c'était la même chose. C'était une drôle de vie.
Sur la mort, c'est intéressant. Vous en parlez, je rebondis. Vous dites, avant la crise, on avait un peu oublié cet esprit de la mort. Cette idée de la mort, elle nous a sauté aux yeux avec l'énumération chaque soir par Jérôme Salomon. On s'en souvient du nombre de morts quotidiens. Vous dites même que nos sociétés se sont engagées dans un déni de la mort.
Oui. On ne la pense pas. On a trop peur d'y penser parce que qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui dans notre société ? Il y a une espèce, chacun décide de sa propre morale, chacun décide de sa vérité, de sa morale. Mais dans ce qui est le plus souvent décidé du point de vue moral, c'est le bonheur. On cherche le bonheur. On ne sait pas trop ce que c'est que le bonheur, donc on va chercher le bien-être. Et le bien-être n'est garanti que si on a la santé. Donc l'équation, c'est d'abord la santé, la sécurité, et à partir de là, on va chercher le bonheur. Et la maladie, la mort, c'est l'inverse absolu, c'est l'impensable. Donc il y a une angoisse qui fait qu'il y a eu une mobilisation, alors que la population, suite à l'événement des Gilets jaunes, etc., la population française est très critique vis-à-vis des institutions, prête à bondir tout de suite, et malgré tout, il y a eu une discipline, une acceptation qui a été tout à fait étonnante.
Alors, vous parlez aussi... Ça m'a beaucoup intéressé, cette partie sur la folie administrative, les attestations incompréhensibles. D'ailleurs, on l'a encore vu il y a quelques jours. Finalement, dites-vous, on ne s'est pas rebellé. Hein. Il y aurait pu y avoir de grandes manifestations, une mobilisation citoyenne importante, une espèce de rébellion, un peu comme les gilets jaunes que vous évoquiez. Et vous dites, la société moderne a surtout la phobie des risques, de tous les risques. Dès que le moindre péril pointe, les règlements pleuvent pour le prévenir ou le combattre. En somme, cette société moderne a peur d'elle-même.
Oui, et ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on se trompe sur notre société. On vit sur une théorie de l'individu qui est là, qui est un principe, qui est la théorie de l'individu libre qui décide de tout et qui est aventureux, qui est capable de prendre des risques. Et c'est une partie de nous-mêmes.
Oui.
C'est une partie de nous-mêmes, mais pas complètement. Il y a un moment où on a envie de dire stop, on a envie de se reposer d'une certaine manière. Et on a envie aussi d'être en sécurité.
Elle vous fait peur, vous, Jean-Claude Kaufmann, cette société aseptisée ?
Oui, parce que je ne sais pas vers où elle nous entraîne. J'essaie de réfléchir là-dessus dans le livre et je n'ai vraiment pas de réponse parce qu'il y a des hypothèses extrêmement différentes. Et dans les différentes hypothèses, il y a l'idée d'une soumission possible. On est prêt à se laisser prendre en charge à partir du moment où l'autorité est acceptable. Qu'elle est bien argumentée, qu'on la comprend, qu'elle a une bonne allure, pas une dictature, ça on n'accepterait jamais, mais une autorité qui est une belle image, on accepterait. Donc ça me fait un petit peu peur, effectivement.
Alors, certains chercheurs pensent que dès la fin de cette crise sanitaire, le retour à la vie normale sera un retour des années folles. Vous savez, les années 20. D'ailleurs, on est en 2020, ça tombe bien, avec une nouvelle énergie créatrice, culturelle, la fête. Vous y croyez, vous, à ça ?
Alors, d'abord, le problème, c'est le problème de la fin. Parce que quand est-ce que ça va finir, cette chose-là ? Là, on ne sait pas. Et il y a un autre élément, c'est que de la crise sanitaire peut s'enchaîner d'autres types de crises.
Oui,
notamment,
crise sociale,
par exemple,
crise économique.
Crise économique, financière, l'endettement, on ne sait pas trop si on pourra véritablement rembourser, etc. etc. Donc, il y a déjà cette question de la fin qui n'est pas définie. Et puis... Il y a des forces contradictoires qui sont en gestation actuellement. Il y a celle que je décris, la tendance au retrait, au repli, à la quête du doux, du mou, presque d'un cocon, presque d'un repli fœtal d'une certaine manière. Et une autre tendance qu'on avait vue à la période des Gilets jaunes, mais qui pourrait très bien revenir très très fort, qui est ou bien le désir de fête, justement... retrouver le goût du risque, de l'aventure, le désir du contact, le désir de l'autre, ou bien des explosions de colère également. Il y a toutes ces hypothèses qui sont en jeu aujourd'hui, donc c'est absolument impossible de décrire l'avenir actuellement.
Ça s'appelle « C'est fatigant la liberté », rassurez-moi. C'est réjouissant aussi la liberté, Jean-Claude Kaufmann.
Mais oui, mais bien sûr. Et là, plus on en est privé, plus on en rêve. Ouais. On ne peut pas abandonner ses libertés, bien sûr.
C'est fatigant la liberté, une leçon de la crise, c'est donc aux éditions de l'Observatoire. Merci Jean-Claude Kaufmann pour ce moment passé ensemble. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, restez avec nous dans quelques secondes. Le rappel de l'info et le débat des grandes voix. Grosse colère aujourd'hui, tiens, à l'Assemblée nationale de Jean Castex. L'exécutif est-il en train de perdre ses nerfs ? On en parle. À tout de suite. Le rappel de l'info à 18h30 avec Isabelle Millet.
Et l'opposition à l'Assemblée comme au Sénat boycotte le vote sur les nouvelles restrictions annoncées hier soir face à l'épidémie. Des dispositions qui ont malgré tout été approuvées. Jean Castex a dû élever la voix pour se faire entendre et pour justifier ce nouveau tour de vis sanitaire. Le Premier ministre a confirmé que les déplacements seront fortement limités dans tout le pays. 10 km seulement autour de chez soi, mais une tolérance sera accordée pour le week-end de Pâques, pour ceux qui veulent se mettre au vert. Et ensuite aussi pour ceux qui doivent accompagner ou aller chercher leurs enfants, chez les grands-parents par exemple, ou chez un proche. Et puis autre précision, la consommation d'alcool est désormais interdite dans l'espace public. Après l'allocution d'Emmanuel Macron, la SNCF a enregistré une hausse de 25% de ses ventes par rapport à la veille. Sur la question des vaccins, le rythme s'accélère. Cette campagne est au cœur de la stratégie gouvernementale. Vaccination qui va être élargie dès le 16 avril aux plus de 60 ans et aux plus de 50 ans à partir du 15 mai. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, estime que l'on pourrait avoir atteint le pic épidémique d'ici 7 à 10 jours. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, est sortie de l'hôpital. Elle y avait été admise pour des complications liées au Covid. Puis la reine des classiques cyclistes, le Paris-Roubaix, reporté une nouvelle fois en raison de la situation sanitaire. Elle devait se tenir le 11 avril. Elle aura lieu le 3 octobre.
Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure à 19h. La météo, Anissa, ça y est, les températures baissent, les nuages reviennent et ça va aller de mal en pis.
C'est ça. Après un gros coup de chaleur quand même record de ces derniers jours, le froid, ça y est, arrive. Julien, il faut quand même savoir que la journée d'hier a été le 31 mars le plus chaud de l'histoire depuis 1947. On a battu des records de température, 26,6 degrés dans certaines communes de Bretagne par exemple, jusqu'à 28 degrés du côté de Tours. Alors demain, nous allons changer de masse d'air sur la moitié nord du pays. On va perdre 5 à 10 degrés. Demain après-midi, il ne fera que 11 degrés à Dunkerque, 12 à Lille, 13 à Amiens, 16 à Metz, 17 à Paris et à Brest, 20 à Blois, 24 degrés à Toulouse. Là, sur la moitié sud, les températures restent très douces. 25 degrés à Lyon, 26 à Bordeaux et 28 à Brive. Sur les côtes de la Manche, on a toujours cette bise qui souffle et qui rafraîchit forcément l'atmosphère. Et puis sur les reliefs des Alpes, des Pyrénées, nous aurons des averses uniquement en altitude. Ailleurs, je vous rassure, le soleil sera quand même au rendez-vous.
Bien, ça c'est la bonne nouvelle. Merci oui. Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur le temps, 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bucher.
Allez, place au débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés Pascal Perrino, politologue. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Jean-Sébastien Ferjou, éditorialiste et fondateur d'Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Et Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Alors on commence avec cette grosse colère, on l'évoquait dans le rappel des titres, Jean Castex tout à l'heure à l'Assemblée nationale, face aux critiques de plus en plus vives de l'opposition. La quasi-totalité des oppositions, c'est vrai, ont boycotté le vote sur les mesures sanitaires en dénonçant une mascarade, ce qui a fait sortir de ses gonds, c'est assez rare, le Premier ministre.
Quelle était la musique de ces interventions ? Les commerces ne les fermaient pas ? Les stations de ski ne les fermaient pas ? Les universités, rouvrez-les ? Les établissements publics culturels, rouvrez-les ? J'ai entendu ça depuis des semaines et aujourd'hui, voilà que nous serions trop mous ! Trop tardifs ! C'est formidable !
Alors, c'est le signe d'une forme de fébrilité, Jean-Sébastien Ferjou, ou simplement il affirme son autorité, le Premier ministre ?
Une espèce de classique des questions à l'Assemblée.
Ah, Jean Castex, moi je l'avais vu, jamais vu comme ça. Hein.
De la part de Jean Castex, oui, effectivement, mais de répondre sur ce temps-là et de pointer les insuffisances de l'opposition, malgré tout, on y est...
On l'a senti très agacé, très énervé.
Bien sûr qu'on sent qu'il y a un pouvoir qui est énervé. On sent aussi Olivier Véran, notamment, qui bien souvent, quand il prend la parole à l'Assemblée nationale, est sur les nerfs. Et c'est là où est la limite de l'exercice. C'est-à-dire qu'on peut comprendre un certain nombre des arguments de Jean Castex quand il pointe les insuffisances de l'opposition. Mais il a parfois tendance à oublier aussi la position institutionnelle qui est la sienne. Oui. C'est-à-dire qu'il ne répond pas juste à quelqu'un comme s'il était face à lui sur un studio télé ou dans un dîner. C'est-à-dire en disant « t'es quand même gonflé de me dire ça alors que toi-même t'as fait ci ou t'as fait ça ». Il répond à des gens qui sont des représentants de la nation. Alors effectivement, c'est difficile, il y a une double nature. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que les questions, il est quand même légitime qu'elles soient posées. Il ne peut pas juste balayer d'un revers de la main les questions qui sont posées sur l'efficacité de la politique sanitaire, les retards, etc. Et je trouve dommage qu'Olivier Véran, de manière assez structurelle, et Jean Castex, aujourd'hui, aient tendance à évacuer cette partie-là du sujet, parce que quand il ne répond pas sur le fond. Oui, on peut dire que l'opposition s'est assez déconsidérée ces dernières semaines ou ces derniers mois en n'étant pas très constructive ou assez instable et incohérente. Oui. En revanche, il ne répond pas, lui, aux questions qui se posent légitimement sur son action à lui.
Mais je vous pose la question à vous aussi, Pascal Perrino, parce que c'est quand même symptomatique du discours de l'exécutif depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois même, le refus d'un mea culpa ou d'un petit aveu d'échec. On se souvient d'Emmanuel Macron qui a refusé de faire son mea culpa à l'issue du Conseil européen. Hier, le président de la République a aussi balayé les critiques sur le fameux pari qu'il aurait fait de ne pas confiner en février dernier.
Oui, tout à fait. Ce malaise du pouvoir exécutif, je dirais même, il a plusieurs années derrière lui. C'est le malaise de ce nouveau pouvoir, de ce nouveau monde qui voulait presque tout réinventer et qui n'a jamais trouvé sa place exactement en ce qui concerne le pouvoir exécutif par rapport au pouvoir législatif, par rapport au Parlement, par rapport aux élus locaux et aux corps intermédiaires. Mmh. Regardez, et même avant cette crise sanitaire, la difficulté que ce pouvoir exécutif a à faire avec les autres éléments du système politique et en particulier les éléments qui sont de véritables contre-pouvoirs. Ça s'est toujours très mal passé et mal passé depuis le début, oui, avec les élus locaux, avec le Sénat et même avec l'Assemblée nationale qui est pourtant peuplée par un parti qui est un parti ultra-majoritaire. Et on a l'impression là que le Premier ministre, en piquant sa colère, découvre la réalité du fonctionnement des institutions sous la Ve République, même dans un régime présidentiel qui n'est pas un régime présidentialiste.
À ceci près quand même que le président de la République, faut le reconnaître, a salué le travail des élus locaux, l'implication hier soir des maires. Et c'est vrai qu'il a tout de même, du bout des lèvres, assumé, Aurélie Herbemont, des erreurs.
Des erreurs sans dire
lesquelles.
Ouais. Évidemment, c'est toujours plus confortable. Non, ce qu'on a vu aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat, c'est un pouvoir exécutif qui se retrouve face à une opposition globalement qui se rebiffe et qui dit, en fait, déjà votre vote ne sert à rien puisque il n'est que symbolique, puisque oui, évidemment, même si le Sénat avait voté contre,
on ne peut pas l'amender,
etc. Mmh. Les mesures ont été annoncées hier par le président de la République. Et donc, toute l'opposition s'est un peu rebiffée en disant ça fait un an en fait, que vous gouvernez uniquement à coup de conseils de défense. On nous met devant le fait accompli. Et c'est vrai qu'avec les autres partis politiques et l'opposition, c'est compliqué depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, Jean Castex en fait découvre la plénitude de ce qu'est être Premier ministre, c'est de se faire engueuler, y compris dans l'hémicycle, avec des élus qui vous sifflent, qui critiquent tout. C'est pas forcément très confortable comme position. Mmh. Et il avait déjà eu ce problème alors dans une réunion à huis clos avec toute la représentation à la fois des parlementaires, des chefs de parti, de l'opposition, avant une réunion à huis clos, avant le confinement de novembre. Et c'est François Bayrou qui lui avait dit vous découvrez ce que c'est qu'être Premier ministre. En fait, Premier ministre, c'est se faire engueuler.
Ouais. Mais vous la trouvez constructive, cette opposition? Parce que c'est vrai qu'on voit que les oppositions là, tapent quand même assez sérieusement. D'ailleurs, de mémoire, depuis le début de cette crise sanitaire, c'est la première fois que les critiques sont aussi fortes. Hein. On a entendu le show Mélenchon tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Bon, Jean-Luc Mélenchon a fait du Mélenchon, mais Damien Abad, qui jusqu'à présent soutenait quand même du bout des lèvres le travail de l'exécutif, qui est le chef du groupe parlementaire Les Républicains, lui aussi, il a pris la tangente.
Alors, je crois qu'il y a eu des moments quand même où l'opposition s'était montrée déjà assez dure, notamment en janvier, si je me souviens bien, avec les premiers ratés du plan de vaccination.
Mais là, ce n'est plus le cas.
Mais effectivement, l'opposition ne sait pas très bien sur quel pied danser. Je pense que c'est toute l'erreur politique d'Emmanuel Macron dans cette crise, de ne l'avoir jamais associé à la prise de décision. Il les a consultés abondamment, on le sait, sauf qu'en général, les représentants des partis consultés disent « on nous informe vaguement » de ce qui va se passer. Et puis finalement, quoi qu'on dise nous, ça n'est pas pris en compte. Et je trouve que il y a une crise de la donnée publique. Oui. Il y a une crise de l'analyse, c'est-à-dire que beaucoup de choses ne sont pas totalement transparentes. Regardez, on voit bien qu'il y a un conflit à l'heure actuelle sur le nombre, pas sur le nombre dans l'absolu de gens en réanimation, mais sur ce qui se passe réellement dans les services de réanimation. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trancher de l'extérieur? Parce que justement, nous n'avons pas les chiffres réels. Et ça, cette culture de l'opacité française qui fait que le Parlement ne joue pas son rôle, en vérité. Parce qu'un Parlement, il n'est plus tellement là pour écrire la loi, on le sait, c'est plutôt la transposition du droit européen.
Pour contrôler aussi.
Mais il est là pour contrôler l'action de l'exécutif. La semaine dernière, et je finis là-dessus, il y a eu un débat dans le cadre des semaines dédiées au contrôle de l'évaluation des politiques publiques sur la politique sanitaire. On peut dire quand même depuis un an que tout s'est bien passé, il y a 20 députés qui sont venus. Oui. Donc à votre question, l'opposition est-elle constructive? Ma réponse, non.
Bon, on marque une première pause, 18h40, et puis on va parler du fond des mesures. Je voudrais votre avis sur ce qui a été annoncé hier soir. À tout de suite. La suite du débat des grandes voix avec toujours le politologue Pascal Perrineau, Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico et Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Alors, sur le fond des mesures, qu'en avez-vous pensé et qu'en pensez-vous? Parce qu'elles rentrent en application à partir de maintenant. Pascal Perrineau.
Il reste des éléments que ce pouvoir exécutif traîne dans la mise en œuvre de sa politique, des problèmes de lisibilité.
Oui. Hein.
L'opinion, on le voit dans les premiers sondages qui ont été faits a l'impression d'être ballotté d'un bord à l'autre de l'échiquier. D'autre part, les mots ne sont pas prononcés.
Lesquels?
C'est un cache-sec, c'est un véritable reconfinement.
Oui. Hein.
Et d'une certaine manière, les Français auraient préféré qu'on leur parle de reconfinement. Mmh. Ils auraient davantage compris. Mais là, une fois de plus, on fait les choses sans tout à fait les nommer ni les dire. Mmh. Et je ne crois pas que pour l'acceptabilité des mesures, ça soit formidable. D'ailleurs, il y a dans l'enquête qui vient d'être publiée quelque chose de tout à fait intéressant.
Oui.
En même temps, trois quarts des Français sont pour, par exemple, des mesures autoritaires pour le confinement. Mais ils vous disent, les mêmes, en même temps, on n'est pas du tout sûr de les appliquer. Un Français sur deux vous dit, on n'est pas sûr de les appliquer.
Oui.
Et d'autre part, est-ce que ça va servir à grand-chose? Oh non, peut-être pas à grand-chose.
Bon, hein, sur l'efficacité, c'est compliqué, Jean-Sébastien Ferjou, parce qu'on n'est pas épidémiologiste. Et d'ailleurs, même au sein de la communauté scientifique et des médecins, il y a débat. Il y a débat sur l'efficacité de ces mesures. Mais on ne peut pas reprocher au gouvernement de n'avoir rien fait et maintenant de faire trop peu quand même.
Bah, on peut leur reprocher, ou en tout cas se questionner sur ce qu'ils ont choisi de faire, parce que précisément...
Il n'y a pas 50 options, c'est soit reconfinement strict, on est tous à la maison...
Mais je ne suis pas d'accord, figurez-vous, vraiment, mais pas du tout d'accord.
Alors,
il y a des tas de mesures concrètes qui pourraient être prises, c'est-à-dire qu'on a toujours, on est dans le stop and go, enfin, dans cet espace d'alternance, on confine ou on déconfine, et il n'y a rien qui existe au milieu, alors qu'il y a des tas d'études, et il y en a une qui a été publiée récemment, qui a été faite sur 152 pays dans le monde, sur l'efficacité des confinements. Plus on avance dans la crise, moins les confinements sont efficaces. Et de toute façon, en ce qui concerne cette troisième vague, le coup est parti. Donc il n'y a plus grand-chose qu'on puisse faire qui va changer ce qui va se passer dans les 2-3 semaines.
Qu'est-ce qu'on aurait pu faire alors ?
On aurait pu prendre des mesures concrètes. On aurait pu déjà anticiper, par exemple, la rouverture des écoles. Pourquoi ne recrutons-nous pas maintenant les gens qui permettront de faire des tests salivaires massifs dans les écoles ? Il y a des tas d'étudiants qui n'ont pas de petit boulot. On pourrait faire ça. L'aération dans les écoles, les capteurs de CO2, ça coûte 23 € pièce.
Oui.
On a travaillé là-dessus sur Atlantico aussi avec des industriels. Il y a quelques communes qui sont en train de le mettre en place. Les masques FFP2, c'est une contamination par aérosol, pas par gouttelette. C'est-à-dire les masques que nous portons là, vous savez, ces fameux masques bleus, ceux qu'on voit y compris dans les hôpitaux quand Emmanuel Macron y est, ce sont des masques qui protègent mal de la contamination. On ne fait rien, par exemple, sur les contaminations dans les hôpitaux, qui sont pourtant un lieu majeur de contamination dans le pays. Il faudrait que les soignants aient eux aussi des masques FFP2. On aurait pu les... Vous savez combien ça va coûter ? Encore, Bercy nous l'a dit, 11 milliards d'euros, je pense. 11 milliards d'euros pour là, les semaines de fermeture. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'on peut faire ?
Un confinement, c'est 14 milliards par mois. Le couvre-feu, c'est à peu près 7 milliards par mois.
On avait déjà plusieurs milliards sur les 4 semaines qui viennent de s'écouler. Est-ce que vous pouvez imaginer tout ce qu'on pourrait faire ? Des décontaminateurs de masques à l'école, ça existe d'un point de vue industriel. Il y a des tas de mesures de choses qui ne sont pas très chères et qu'on ne met pas en œuvre.
C'est d'ailleurs notre débat de ce soir. Vous savez pourquoi ? Car la mobilité et l'agilité de l'administration publique de l'hôpital ne permet pas ce que vous dites.
Il ne s'agit pas seulement de l'hôpital, regardez, on ne s'appuie pas sur les ingénieurs, on ne s'appuie pas sur les scientifiques, on ne s'appuie pas sur les géographes. Par exemple, des géographes, ils sont capables de croiser la carte des lieux de pollution, des endroits où on sait que les gens ont les poumons atteints, et la carte de la virulence de la maladie. Parce que pour partie en Seine-Saint-Denis, si les gens sont plus malades, c'est une des explications, parce qu'ils ont déjà des poumons fragilisés, parce qu'ils ont eu des carrières difficiles avec des solvants notamment, etc. C'est pas forcément la densité, ni la pauvreté. Il y a des tas de moyens d'être plus intelligents. Les QR codes, les pays asiatiques l'ont fait, les QR codes, quand vous arrivez, soit pour gérer les queues, soit justement pour mieux faire le traçage. Le rétro-traçage, on ne le teste que dans 2 départements français, c'est pourtant ce qu'a permis au Japon. Il y a des tas de trucs à faire qui nous coûteraient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, et je vous assure qu'ils sont en plus pas très compliqués.
Bien, Aurélie Herbemont, c'est vrai que ce qui vient d'être dit est assez vrai. On n'a pas réussi à trouver...
Totalement vrai.
Vous avez raison de vous défendre. On n'a pas réussi à trouver d'alternative entre enfermer ou enfermer partiellement et permettre aux gens de circuler totalement. Voilà, on n'a pas trouvé l'alternative.
Là où Jean-Sébastien a raison, effectivement. Alors attention, je vais mettre des gros guillemets à ce que je vais dire, parce que la façon dont je vais le dire, forcément, ça va paraître un peu bizarre. C'est que confiner, en fait, c'est la solution. Attention, voilà les guillemets. De facilité.
Oui. Mais oui, bien sûr. C'est l'arme de ceux qui n'ont rien fait.
C'est quand vraiment on a tout essayé ou pas tout essayé selon le point de vue, mais le plus simple, c'est de dire on met le couvercle en espérant que ça fasse baisser l'incidence, que ça fasse baisser les contaminations. Après, on va voir cette formule qui est un confinement qui ne dit pas son nom. De toute façon, je pense qu'on ne reverra pas un confinement comme on avait vécu en mars. Parce que déjà, l'exécutif se dit que ça ne serait plus respecté, ce qui est un vrai problème.
Il n'y a plus de cartouches, là. Pardon, Aurélie. Il n'y a plus de cartouches. Si dans 3 semaines, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait ?
Je pense qu'on prolongera, si jamais ça ne marche pas, la fermeture des écoles.
Mais on ne pourra pas durcir. Ça ne sera pas acceptable.
C'est très compliqué durcir et de faire respecter. Ça fait un an.
La réalité non dite, c'est que la France, les Français, le gouvernement et les Français ont fait collectivement, sans que jamais cette question-là n'ait été posée d'un point de vue démocratique, parce qu'après tout, on pourrait décider. Qu'est-ce que vous préférez, les libertés publiques ou le nombre de morts ? C'est une vraie question. Qu'est-ce que vous préférez ? Payer plus cher des vaccins ou alors que ça dure plus longtemps ? On peut poser toutes ces questions-là. On ne l'a pas fait ni au niveau européen, ni au niveau français. Nous avons fait le choix d'une trajectoire de nombre de morts élevé. Nous avons fait le choix de l'indignité pour les personnes âgées dans le pays, parce qu'on a beaucoup répété que c'était pour les personnes âgées ce qui a été fait dans les EHPAD.
On va pas revenir, c'est la question qu'on a posée hier. C'est la question qu'on a posée hier dans les grandes voix.
Vivons avec, assumons-le, parce que faire semblant, ça nous coûte cher et ça produit rien.
C'est une question qu'on a posée ici même avec notre invité dans les grandes voix hier soir. Le coût de la vie humaine rapporté aux investissements publics. Voilà, c'est une question
qui est donnée. On l'évalue mal, parce que précisément, quand on l'évalue bien,
on n'a jamais répondu.
Par exemple, on a des masques.
Bon, 18h48, on marque une nouvelle pause. Faut-il croire à la réouverture à compter du 15 mai ? Là aussi, il y a débat, on en parle, là tout de suite. Débat des grandes voix suite, Pascal Perrineau, le politologue toujours à mes côtés, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico et Aurélie Herbemont, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Alors, faut-il croire à cette réouverture à compter du 15 mai ? C'est la promesse qu'a faite hier soir Emmanuel Macron. On l'écoute.
Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses. Et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants.
Alors ce qu'il y a, c'est qu'on nous a déjà fait le coup, puisqu'on nous avait dit que les cinémas, les théâtres et les musées allaient rouvrir le 15 décembre. Et puis après, on nous a dit que les restaurants allaient reprendre le 20 janvier. Et puis après, on nous a dit mi-avril, retour à une vie plus normale. C'était pas il y a un siècle, c'était il y a quelques jours. Pascal Perrineau, la mi-mai, est-ce que c'est un objectif tenable ?
C'est un objectif, à mon avis, difficilement.
C'est dans un mois et demi.
Tenable. Quand vous regardez un mois et demi, mais quand vous regardez les différentes tendances, les différents indicateurs, vous apercevez que rétro-pédaler à ce point en un mois et demi ne va pas être facile. La France est à un haut niveau de létalité, de mortalité. Le système hospitalier, dans de multiples régions, est au bord de la crise. Donc, on ne voit pas très bien comment, en un mois et demi, on va arriver à améliorer tous ces indicateurs, à les faire passer.
Et puis, si les mesures fonctionnent, c'est dans un mois et demi que ça va commencer à baisser.
Voilà, donc, ça va commencer à baisser et donc, ce sera très difficile. Mais attention aux effets d'annonce, parce que là, on a un pouvoir qui va d'effet d'annonce en effet d'annonce. Et cela contribue à la déception, forcément. Parce que les gens disent, voilà, peut-être de manière un peu rapide, on nous a raconté des histoires. Et on a dans les sondages, au mieux, une forme de passivité résignée qui est en train de s'installer, au pire de la rage. Donc il faut voir ce que ça va donner politiquement dans quelques mois, surtout que nous sommes à quelques encablures maintenant d'échéances électorales importantes.
Oui. Pourquoi est-ce que, Aurélie Herbemont, pourquoi est-ce que l'exécutif, et en l'occurrence le président de la République, s'enferme dans un calendrier potentiellement intenable ?
Parce qu'il faut donner de l'espoir, et clairement, quand vous annoncez des nouvelles restrictions, hier, avant la prise de parole du président...
Oui, mais quand ça
ne
fonctionne pas, c'est contre-productif.
C'est contre-productif, parce qu'effectivement, si je fais un sondage rapide dans ce studio, depuis hier soir, tout le monde se dit, peut-être que le 15 mai, on pourra aller boire un verre en terrasse.
Absolument.
Bon,
avec
même s'il dit, c'est le début, du desserrement des contraintes. C'est pas, il n'a pas non plus dit que le 15 mai, c'était le retour de la bamboche. Mais il était un petit peu obligé de donner un espoir pour faire avaler quand même la pilule du mois d'avril, qui donc devait être le mois où normalement ça allait aller mieux, puisqu'Emmanuel Macron avait dit dans 4 à 6 semaines, sauf qu'on y est aux 4 semaines. Donc il fallait, pour faire avaler la pilule de nouvelles restrictions, de donner un peu d'espoir. Ceci dit, bon, il va falloir effectivement que les courbes baissent, sachant que le pic pourrait être atteint que dans 10 jours, donc ça va continuer à grimper pendant 10 jours. Après, la décrue peut être extrêmement lente, mais il faut miser sur les vaccins, encore une fois, en espérant qu'on n'ait pas de problème de livraison, ça nous est déjà arrivé par le passé, et que ça déroule pour vacciner, pour espérer voir une petite lueur.
L'accélération de la vaccination. Jean-Sébastien Ferjou, vous y croyez, vous, à la bamboche mi-mai ?
Non, à la bamboche, non. C'est du reste pas ce qu'Emmanuel Macron a évoqué hier soir, comme le soulignait
La réouverture partielle des terrasses et de certains lieux de culture.
Voilà, mais encore une fois, nous pourrions le faire plus efficacement si maintenant nous préparions ça par des tas de mesures concrètes. Je vous assure, allez voir sur Atlantico, c'est pas pour faire de la pub, mais vraiment ça existe et on a travaillé avec des industries. C'est vraiment possible et c'est ça qui est désespérant. Maintenant, il y a deux réponses à cette question. Il y a la réponse politique et ce qu'on soulignait à la fois les avantages et les inconvénients, Pascal Perrineau ou Aurélie Herbemont. Justement, c'était difficile de ne donner aucune perspective, mais dans le même temps, les effets d'annonce. Après, il y a la réalité sanitaire. Non, si on regarde la réalité sanitaire, il y a un scénario qu'il faut bien que nous ayons en tête. C'est que potentiellement, ça va encore durer pendant des mois. Et c'est précisément pour ça qu'il est dommage que nous n'investissions pas. Regardez sur le traçage, par exemple.
Alors, justement, on va aller un peu au bout des choses. Vous avez travaillé sur le sujet, vous nous avez mis sur la table tout un tas de solutions très concrètes, fort intéressantes. Pourquoi les éminences grises qui travaillent au ministère de la Santé, auprès du Premier ministre, auprès de l'Élysée, ce sont des hauts fonctionnaires à la tête bien faite, pourquoi ne travaillent-ils pas avec... ces formules et ces solutions que vous évoquez, déjà en mais perspective de la réouverture. Pourquoi ?
Mais c'est un mystère, je pense, parce que...
Mais alors, qu'est-ce qu'ils font de leur journée ?
Je pense que les politiques... Alors, je vais vous répondre, je pense que les politiques ont peur des Français. Ils ont peur des Français version quartier populaire. C'est aussi pour ça qu'ils ne voulaient pas faire de reconfinement, alors qu'on savait les taux d'incidence étaient très hauts, hein, quasiment à 900 000 dans certaines villes de Seine-Saint-Denis. Quand on est à 1 000 pour 100 000, ça veut dire qu'en 3 mois, tout le monde est contaminé. C'est ça que ça veut dire. Ils ont peur des Français version gilet jaune. Donc, il y a des tas de choses de toute façon qu'ils ne veulent pas faire parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne contrôlent plus le territoire. Mmh. Après, il y a l'administration qui se méfie de la société civile. Ils considèrent que par nature, ils font toujours mieux. C'est-à-dire qu'un entrepreneur ne saurait, par exemple, avoir des tests
donc
efficaces.
Toujours la même histoire, après, les blocages administratifs.
Il y a une culture du risque déficiente, enfin, où ils ont une culture du risque. Ils préfèrent, par exemple, que nous n'ayons pas de masque pendant des mois plutôt que de dire bah, une écharpe, peut-être, ça vous protégerait qu'à 20%, parce qu'il y a eu des études qui ont montré que c'était 20-30%. Ils préfèrent que nous prenions un risque à 100% aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé la solution qui, elle, serait sûre à 100%. Regardez ce qui se passe là sur les autotests, parce que là, pareil, en matière de crédibilité de la parole publique, on nous annonce, il y a déjà. Au moins une dizaine de jours, si ce n'est 2 semaines, les autothèses vont être disponibles partout.
Et dans finalement,
les supermarchés,
marche arrière.
Ça coûte 4 euros.
Marche arrière.
Nous ne les avons pas. Mmh. Et bref, la liste, on peut la faire.
Pascal Perrineau,
oui,
pour terminer.
Oui, je crois qu'on a tout à fait raison d'insister sur des problèmes de blocage culturel. Parce qu'en fait, on peut s'interroger sur le pourquoi. Mais qui est à la décision, si vous voulez ? C'est un ensemble, en effet, de hauts fonctionnaires, d'administrateurs qui sont porteurs d'une certaine culture. Cette culture, il faut bien reconnaître qu'elle considère que l'intérêt général, c'est l'appareil administratif qui le détient. Et que les acteurs privés voilà, ne sont pas animés par cet intérêt général. Donc on ne peut pas leur faire confiance, hein, a priori, même si c'est là qu'il y a de l'imagination.
Oui.
Et puis deuxièmement, la culture du benchmarking, c'est-à-dire de la comparaison avec ce qui marche ailleurs. Non, parce que la France, c'est tout de même beaucoup mieux que tout le reste.
Oui,
hein,
oui.
Et donc,
une
quand, vous avez, voilà, quand vous avez ces grilles de lecture culturelle, ben, vous avez un
et
handicap.
Et nous ne sommes pas des citoyens aux yeux de l'administration, nous sommes bien. Leurs administrés.
Alors, vous me faites une transition toute trouvée. 18h57, vous restez avec nous. Le journal, évidemment, dans quelques secondes. Car dans le grand débat du Club des Idées, eh ben, on va justement se pencher sur l'hôpital. Est-il malade de sa bureaucratie ? On en parlera avec nos invités. À tout de suite.